CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprises et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur notre compte LinkedIn CIO Radio TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Thierry Cartala, que je salue. Bonjour Thierry.
Bonjour Billy.
Merci d'être là, merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultant. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Clara Thibault, que je salue. Bonjour Clara.
Bonjour Billy.
Merci d'être là. Vous êtes Chief Data et Analytics Officer de Pierre Fabre. Avant de plonger dans votre univers quotidien, on va remonter le passé ensemble. Vous êtes née à Rouen. Il y a une très belle cathédrale d'ailleurs.
Tout à fait.
Et des bonbons à la pomme qui sont excellents.
C'est vrai. D'autres spécialités.
Et d'autres spécialités. Plus jeune, en tous les cas, vous vouliez être successivement médecin. Et puis, l'année du bac, vous vouliez être journaliste. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le journalisme ?
Alors certainement la curiosité, enfin c'est en tout cas, je pense, un trait de caractère qui me définit, et l'envie de creuser des sujets.
Mmh. Mais ce n'était pas dans l'esprit grand reporter, je pars au bout du monde.
Non, c'était plutôt une approche, une attirance des métiers aussi, du récit. En fait.
Mmh. Alors, ça a été ni la médecine, ni le journalisme, et pourtant au milieu, il y a un bac S, et ensuite vous enchaînez à Rouen, à la Neoma Business School, et vous avez la chance, en deuxième année, dans un programme Erasmus, de partir en Catalogne pour étudier. C'était comment ? C'était vraiment l'auberge espagnole ?
C'était tout à fait l'auberge espagnole, et c'était exactement ce que je cherchais, mais j'ai quand même été sérieuse.
Ah oui, vous avez été sérieuse, vous continuez vos études, et c'était donc une université à côté de Barcelone, et en quatrième année, deuxième chance, vous voilà partie, toujours dans le même cadre, pour 6 mois à Seattle. Qu'est-ce qu'il y avait de différent entre les cours donnés en Espagne et ceux donnés aux États-Unis ?
Alors, ce qui était très différent, c'est qu'en Espagne, en effet, j'étais étudiante et absolument baignée dans l'université catalane, avec des cours en catalan aussi, hein, donc l'auberge espagnole jusqu'au bout. Et à Seattle, j'étais sur une expérience professionnelle, donc une immersion. Et là, j'étais plus loin des bancs de la fac et en milieu professionnel. Donc j'étais au quotidien dans les équipes du consulat de France qui est basé à Seattle.
Mmh.
Donc une approche alors, plutôt pratique.
Une fois rentrée en France, vous continuez vos études, hein, direction l'IAE pour un master en marketing, communication et culture. Votre premier job, vous allez le faire chez TBWA Corporate. Vous allez débuter comme chef de pub. Entre le journalisme, la communication, je trouve que c'était bien ciblé, chef de pub.
Et tout à fait, et c'est vraiment en fait quelque part une continuité. Alors au lycée, je ne connaissais pas les métiers de la communication en agence, et je projetais journalisme, mais en fait je pense que c'était les métiers de la communication qui m'attiraient. C'était en effet de raconter les histoires autour des marques, autour des entreprises. Et donc, on voit bien le lien entre le journalisme et la communication.
Mmh. Alors, ensuite, votre mari a une opportunité professionnelle qui l'emmène en Californie, au cœur de la Silicon Valley. Vous allez le suivre. Et là, vous êtes ce qu'on appelle une consultante freelance. Et vous avez eu l'opportunité d'apercevoir, mais je voudrais que vous nous racontiez dans quelles circonstances, Mark Zuckerberg.
Et oui, tout à fait, j'ai eu la chance donc de vivre quelques années au cœur de la Silicon Valley. Mmh. J'avais le siège social de Facebook au bout de ma rue, littéralement. Et donc, il était assez commun d'aller déjeuner dans Palo Alto et de déjeuner à côté de Mark Zuckerberg qui, comme vous et moi, eh bien, va manger un burger dans les bars et restaurants de Palo Alto.
Bon, il se tient bien à table.
Tout à fait. Bon, il fait même des selfies avec les clients. Donc.
Déjà la gloire. Vous allez revenir en France après quelques années. Cette fois-ci, vous êtes installé dans la région de Toulouse. Vous êtes toujours au départ consultante freelance et en 2017, vous allez arriver dans le groupe Pierre Fabre. Qu'est-ce qui vous a motivé de quitter, j'allais dire, une certaine liberté quand on est freelance pour arriver dans un groupe aussi important ?
Alors, quand on revient en fait sur Toulouse, je continue en effet mon activité freelance, toujours dans les métiers de la communication et du digital, hein, avec une compétence renforcée aux États-Unis au contact et bien des acteurs de la tech de la Silicon Valley. Et finalement, c'est par un hasard et des rencontres que en fait je découvre que Pierre Fabre, les laboratoires Pierre Fabre, recrutent. En fait, cherche une personne en qualité de communication corporate en charge du digital. Quand j'ai vu ça, j'ai vu mon CV et c'était comme une évidence.
Voilà. Et vous rentrez dans un milieu médical que vous ne connaissiez pas.
Mais qui m'attirait parce que, en effet, l'enfant que j'étais en moi qui me rappelait.
Qui voulait faire médecine.
Finalement, cette carrière dans la santé. Et naturellement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'envie de rejoindre les laboratoires Pierre Fabre, notamment pour les actions dans la santé.
Alors, mon cher Thierry, on l'a vu, la Californie, l'Espagne, des études, plusieurs milieux, la pub, au départ, cette envie qu'a toujours eu Clara de chercher, de découvrir et de comprendre comment tournait le monde. Nous, on va lui poser nos questions quand même.
Ah oui, bah, on ne manque pas. Dans le monde de la santé et de la e-santé, les sujets se multiplient. C'est intéressant de voir quelqu'un qui fait de la communication. J'aimerais bien avoir écouté un peu votre storyline, hein, finalement. Comment on communique aujourd'hui avec effectivement tous les produits qu'il fait et qu'est-ce que vous mettez en avant, notamment dans la mise en œuvre des produits digitaux. Qu'est-ce que finalement on sera mieux soigné prendrait plus soin de nous. Comment ?
Alors, les laboratoires Pierre Fabre, donc on agit sur deux activités principales. Donc, d'une part, les médicaments et une activité dermocosmétique. Donc, sont nos deux jambes avec une part de, finalement, une activité à peu près équilibrée entre ces deux activités. Alors, la question que vous vous posez, j'imagine le digital au service de la santé, mais ce n'est pas que au service de la santé, c'est finalement au service de la performance de l'organisation, au service de nos partenaires qui sont des professionnels de santé et des patients. Et quelle est notre storyline autour de ça ? C'est, je pense qu'on a une richesse, et dans la data, on a énormément en fait, d'informations qui, si elles sont bien utilisées, bien finalement exploitées, parce que c'est aussi un des enjeux, hein, cette exploitation de cette mine, eh bien, peuvent éclairer nos décideurs, nos collaborateurs, les aider en tout cas à concevoir des produits innovants, mais également à adresser en fait, le quotidien. Donc, une entreprise plus performante et aussi plus performante pour ses clients finaux.
Donc du coup, la donnée est clé. Il y a un truc qui arrive là, qui disrupte un peu le modèle, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez faire quoi avec l'IA générative chez Pierre Fabre ?
Alors l'IA générative,
des belles choses, j'imagine.
Oui. Alors l'IA générative, en effet, ça fait depuis décembre 2022 qu'elle est dans la bouche de tout le monde. Hein. Il y a eu un véritable buzz médiatique et je pense que vous en avez fait aussi l'écho. Régulièrement. Aujourd'hui, c'est plus qu'un buzz médiatique, c'est une réalité. J'étais par exemple hier invitée par Microsoft à l'IA Tour de Microsoft et j'ai eu la chance d'intervenir sur une table ronde dédiée à la santé, justement. Et nous, chez Pierre Fabre, c'est très concret. C'est aujourd'hui, on a, et depuis septembre 2023, nous avons notre propre IA générative interne qui est basée sur un modèle ChatGPT, mais c'est une réalité. On a un outil sécurisé interne et qui est propre à Pierre Fabre, donc qui est absolument déconnecté du monde extérieur. Donc c'est déjà une réalité et on le déploie à l'ensemble des collaborateurs. Nous sommes 10 000 collaborateurs dans le monde et donc là nous sommes actuellement en train de déployer cette solution qui est une solution qui rend service à chacun dans son quotidien.
Donc du coup, ce que j'imagine, c'est que ça va accélérer les parcours thérapeutiques ou les parcours de recherche de vos équipes. Comment ils prennent l'arrivée effectivement de cette technologie dans leur quotidien. Ce jumeau numérique qui va commencer à prendre des décisions parfois à leur place, ou alors il faudrait peut-être pas, mais en tout cas, comment vous contrôlez la mise en œuvre effectivement de cette technologie, c'est-à-dire le passage à l'échelle.
Alors il y a déjà, là, pour répondre à la première partie de votre question, un enthousiasme. Et ça, c'était une surprise aussi pour nous. En lançant cette nouvelle technologie dans l'organisation, on avait aussi à cœur de comprendre quel allait être le terrain d'accueil, favorable ou pas. Et on a pu mesurer en fait l'enthousiasme des collaborateurs à l'arrivée en fait de cette nouvelle technologie. J'ai une data pour prouver cet enthousiasme qui a été, on a organisé un webinaire de présentation et on a eu plus de 1000 connexions simultanées, donc sur la même time zone, qui est pour nous une performance, et avec des questions très enthousiastes. On pouvait anticiper des questions, parce qu'on sait qu'il y a aussi des fantasmes autour de l'IA générative, et nous n'avons que des manifestations d'enthousiasme. Donc c'était aussi un marqueur de réassurance, et aussi peut-être un marqueur de succès potentiel de l'arrivée de cette technologie dans l'organisation. Donc ça nous a mis aussi en confiance pour déployer cette technologie. Et justement, je pense qu'il faut parler aussi de confiance quand on parle d'IA générative, parce que il y a en effet beaucoup de choses qui sont inconnus, et quand on déploie à l'ensemble des collaborateurs et pas spécifiquement que à des experts de la data, eh bien il faut aussi faire preuve de pédagogie et de démystifier un petit peu tout ça. Donc nous, on a une approche transversale dans l'organisation. On travaille de concert avec la direction des ressources humaines, l'éthique, la compliance, la DSI et la formation, afin de diffuser et de faire preuve de pédagogie.
Donc du coup, c'est très important, et ça effectivement c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, l'IA de confiance. Vous avez regardé un peu ce que l'IA Act a dégainé, ce que vous
Bien
faites
sûr.
Est conforme avec effectivement cette réglementation et globalement votre secteur d'activité.
Tout à fait, alors on suit de très près, et je vous le disais, on a embarqué très tôt justement les équipes legal et compliance dans la boucle pour avancer en toute sérénité. Donc on scrute et on veille toutes ces évolutions réglementaires. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas attendu un IA Act pour être quelque part compliante. C'est vrai que nous, on est dans l'industrie du médicament, on a de toute façon, je dirais, une exigence de qualité qui est par nature, en fait, ce qui nous anime. Et donc, c'est vrai que les exigences de l'IA Act nous placent déjà au niveau le plus important des industries. Et puis, on a déjà, en fait, mis en place tout un arsenal de processus pour s'assurer de la qualité de ce que l'on fait. Donc, on suit en effet l'IA Act avec beaucoup d'attention.
D'accord, on va espérer que les audits de l'ARS se passeront bien.
Ils
viendront vous expliquer que vous ne pouvez pas utiliser telle ou telle IA.
On a mis en place un comité éthique justement pour préqualifier, prévalider nos cas d'usage. Et on n'attend pas que l'IA Act nous l'impose, on le fait déjà.
Voilà, mais en tous les cas, merci Thierry d'avoir posé ces questions. Je ne sais pas si c'est parce que Clara, dans sa vie professionnelle, est dans, entre guillemets, le virtuel, mais dans la vie, quand vous êtes en dehors de votre boulot, vous aimez ce qui est manuel, ce qui est réel. Donc, vous nous parlez d'IA avec Thierry, vous nous parlez de beaucoup de choses, et puis finalement, on s'aperçoit que vous adorez bricoler, vous aimez repeindre, par exemple, la
c'est
maison.
Il ne faut pas me donner un pinceau.
Et vous faites aussi de la couture. On est très loin de votre monde professionnel.
Alors, en effet, mais je pense que c'est peut-être l'envie de faire des choses avec ses mains, ce qui change de mon quotidien. Donc, voilà, j'y trouve un certain équilibre.
Et vous avez l'impression d'être entre deux mondes? C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose manuellement, vous dites « je suis dans un monde presque le Moyen-Âge », alors qu'au travail, je suis dans le futur total.
Ah, mais avec la couture, j'imagine que l'IA générative pourrait potentiellement nous aider à concevoir des patrons qu'on n'a jamais imaginés.
Oh, ce serait bien, ça.
Voilà. Je pense qu'il y a peut-être le rapprochement de ces deux mondes pourrait faire des choses sympas.
Merci, Clara. En tous les cas, je rappelle aussi que quand on est dans ce monde, on a besoin d'oxygène. Donc, le sport compte beaucoup pour vous. Alors, le sport, c'est... vous avez fait plus jeune beaucoup de gymnastique. Aujourd'hui, c'est plus cool, j'allais dire, c'est du pilate. Mais attention, il vous arrive de vous dire, faut que mon corps y tienne, il n'y a pas que l'esprit, et vous faites de la musculation.
Eh oui, tout à fait.
On pousse la fonte, c'est dur, ça, quand même. C'est difficile, mais ça vous maintient, ça vous redonne de l'énergie.
C'est certainement une manière de rester, en effet, active et de dépenser l'énergie que j'ai pas dépensée la journée.
Si et d'être dans le réel, encore une fois. Parce que vous pourriez regarder sur un écran et dire, bah oui, j'appuie sur une manette et je pousse de la fonte. Non, vous le faites réellement. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, Clara, pour votre visite. Merci également à vous, Thierry, de nous avoir reçus. Et pour vos questions, c'est la fin de ce numéro de CIO. Retrouvez toute notre actualité sur notre compte LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.